Hello et bienvenue dans cette 6e saison, et oui déjà, du podcast Ohio. Moi c'est Sego et une fois par semaine, je vais te parler de manga sous le format d'une FAQ, d'une review où je te parle de mes lectures ou tout simplement un épisode un petit peu blabla où je te parle un petit peu de ce dont j'ai envie. Toujours évidemment dans la joie et dans la bonne humeur. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette semaine, il n'y a pas un, mais deux épisodes. Et les deux épisodes sont sur Jojo. Oui, je sais, vous en avez marre de m'entendre parler de Jojo. Mais moi, je n'en ai pas marre d'en parler. Voilà, donc encore une fois, si vous n'avez pas envie d'écouter les épisodes sur ce sujet-là, ce que je peux tout à fait comprendre, n'hésitez pas à les sauter et vous écouterez les prochains. Et je vous jure que je vais essayer de faire un effort pour vous parler d'autre chose que, que de ça. Donc voilà. N'hésitez pas non plus aussi à aller voir sur YouTube. J'ai posté une discussion que j'ai eue avec Julien. Mon ami Julien, donc Tsundoku Manga sur les réseaux, avec lequel on a parlé des personnages féminins dans le manga, et je suis en train de me dire que ça pourrait être intéressant de vous mettre cet épisode en format audio, voilà, et vidéo comme on l'a fait pour d'autres épisodes. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, et n'hésitez pas non plus à aller voir directement la vidéo sur YouTube, et à vous abonner évidemment pour le soutien. Voilà, ceci étant dit, aujourd'hui ça va pas être un épisode très très long, puisque je vais vous parler d'un spin-off de Jojo's Bizarre Adventure. Donc j'aurais dû d'ailleurs vous en parler avant de vous parler de la partie 4, puisque en l'occurrence, c'est un spin-off qui se passe entre la partie 3 et la partie 4. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait un réel dessus qui dure 50 secondes. Je vais essayer de développer quand même un petit peu plus dans cet épisode. Voilà. Mais en tout cas, on est toujours dans l'univers de Jojo. Et il s'agit donc d'un spin-off que vous pouvez trouver chez Delcourt Tonkam, qui est donc en 3 tomes. Évidemment, d'après les personnages originaux de Hirohiko Araki, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Et l'œuvre originale est donc de Kuei Kadono, et le manga a été dessiné par Tazuku Karasuma. Voilà, et donc c'est en 3 tomes, et c'est donc chronologiquement une histoire qui se passe entre Stardust Crusaders et entre Diamond is Unbreakable. Donc officiellement, vous êtes censé le lire avant, puisque c'est l'œuvre qui est censée introduire en fait le personnage de Josuke, puisqu'à ce moment-là, on ne le connaît pas encore. Grosso modo, pour vous parler un petit peu de l'histoire, c'est l'histoire de Ryoko, qui est une jeune femme qui est fraîchement diplômée, qui très rapidement, on va s'en rendre compte, dans son chara-design, ressemble à un personnage qui nous est à tous et à toutes très cher de Stardust Crusaders, puisque c'est la cousine de Kakyoin, qui est donc l'un des personnages principaux de cet arc-là, qui est un personnage qu'il est difficile de ne pas aimer, parce qu'il est top avec son stand qui lance des Emerald Splash. Donc voilà, c'est la cousine de Kakyoin, et grosso modo, en fait, son problème à elle, c'est qu'elle a grandi toute sa vie, donc elle était présente et petite lors des événements en Égypte. Elle a su du coup que son cousin était décédée, et en fait elle s'en veut terriblement, puisqu'elle est persuadée que c'est à cause d'elle que Kakyoin s'est enrôlée auprès de Dio et que Kakyoin est mort. Voilà, désolé pour ceux qui ne le savaient pas, mais du coup malheureusement il ne survit pas. Voilà, et en fait elle a envie de découvrir la vérité, et elle comprend rapidement qu'elle pourra découvrir un peu plus d'informations dans la ville donc de Morio, qui est la ville dans laquelle habite évidemment notre ami Josuke. Du coup on va suivre en fait l'histoire de cette personnage, et en parallèle de ça on va suivre également l'histoire de All Horse, donc All Horse qui est un méchant antagoniste de la partie Stardust Crusaders. Alors il est méchant sans être méchant, parce qu'on sent que le mec a pas un très très mauvais fond, que s'il tue des gens c'est plus parce qu'il a pas trop le choix, et souvent en fait il se fait un peu engrainer dans des trucs parce qu'il a pas un stand qui est surpuissant s'il est pas couplé à quelqu'un d'autre. En fait il faut souvent qu'il travaille en binôme, et on sent que c'est pas le mec le plus courageux de la terre, qu'il est un peu lâche. À un moment il essaye de buter Dio mais il y arrive pas trop, on lui demande de buter les Joestar mais il y arrive pas trop non plus. Donc voilà, c'est ce genre de personnage, vous savez, qui est un peu entre deux. Il est pas complètement gentil, mais il est pas complètement méchant non plus. En fait, il va servir ses propres intérêts, et il va aller là où ça a de l'intérêt pour lui, et là où c'est un peu le moins dangereux pour lui, si on peut dire ça comme ça. Et ça n'en fait pas moins un perso qui est assez sympa. C'est un passionné des femmes, il est amoureux de toutes les femmes, il a une femme dans chaque port, si tant est qu'on peut dire ça. Et il va être également avec le personnage de Boingo qu'on retrouve donc aussi dans Stardust Crusaders avec son frère Oingo. Et Boingo, sa particularité, donc, c'est qu'il a un stand qui lui permet en fait de faire des prédictions dans un manga. C'est un manga qui, au fur et à mesure, les pages se rajoutent, et c'est des prédictions de choses qui vont arriver dans la réalité et qui sont vraies systématiquement. C'est-à-dire que le livre ne se trompe jamais. Alors parfois c'est un petit peu détourné, et celles et ceux qui auront lu Stardust comprendront de quoi je parle. Mais voilà, on va retrouver ces personnages, plus le personnage de Josuke, ainsi que le grand-père de Josuke, qui est donc le policier dans la ville. Et tout ce petit monde-là va interagir, puisque All Horse, en fait, on va lui demander de retrouver des faucons qui ont été dressés et des faucons qui ont des stands. Donc notamment dans Stardust, il y a notamment un stand avec un faucon qui est particulièrement violent, qui va se battre avec Iggy, le personnage de Iggy, donc le chien. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a eu d'autres faucons qui ont été dressés, etc., qu'il y en a qui se sont échappés. Bref, la mission de All Horse, en gros, c'est d'aller chercher ces faucons, et il va être accompagné de Boingo, et tout ce monde va se retrouver donc à Morio, et donc va y avoir des interactions forcément entre tous les personnages. Alors, pour donner mon avis global, c'était une œuvre qui n'était pas transcendante. Honnêtement, je vais pas jeter des fleurs inutilement parce que c'est du Jojo, etc. Alors, déjà, c'est pas du Araki. En termes de dessin, le dessin est très beau. Pour le coup, j'ai rien à dire dessus, ça rend vraiment hommage au personnage. Un trait qui est différent de celui d'Araki, mais qui reste très appréciable et très esthétique. Donc il y a vraiment des doubles pages qui sont très belles. Josuke est très bien dessiné. À un moment aussi, on va avoir le personnage de Kakyoin qui va être dessiné, que j'ai trouvé vraiment magnifique en termes de chara-design dans cette œuvre-là. Donc là-dessus, rien à dire. Pour le coup, le dessin est très bien, est à la hauteur. J'avais un peu peur de me dire, bon, on est tellement habitué à quelque chose avec Jojo que ça va vraiment être un espèce de glow-down dans ce manga-là. C'est pas le cas. Honnêtement, vous allez pas être déçu. Alors c'est pas du Araki, ça reste différent, mais ça reste un excellent niveau de dessin et ça reste très beau. Donc là-dessus, pas de problème. Après, l'histoire en elle-même, en fait, ce que je trouve un peu dommage, alors est-ce que c'est lié au fait que ça dure 3 tomes, donc il faut aller vite, etc., je ne sais pas, mais c'est difficile de rentrer dedans. En fait, le problème, c'est que il y a un peu trop de sous-intrigues dans l'intrigue, il y a énormément de jeux entre le présent, le passé, des flashbacks, le personnage de Dio qui est mort mais qui est pas vraiment mort, mais qui revient, il y a des scènes où on sait pas trop en fait où on en est, et je trouve qu'en fait le résumé global que je pourrais faire de cette œuvre, c'est que c'est très fouillis, c'est très brouillon, on comprend pas trop là où on a envie d'aller on comprend pas trop là où l'auteur a envie de nous emmener, en fait, c'est à dire qu'on comprend bien qu'il essaye de nous faire comprendre qu'il y a eu nous montrer, en fait, en réalité c'est un peu ça, je trouve, si on doit retenir quelque chose de l'œuvre, c'est ça, c'est le côté, l'emprise que Joe avait sur les gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant, puisque la plupart des personnages de cette histoire, en fait, c'est des gens qui ont été traumatisés par Joe à un moment ou à un autre, qui ont été ses esclaves à un moment ou à un autre, et qui se sont pas complètement remis de ces traumatismes-là, et du coup ça va leur créer des problèmes dans le présent. Sauf que c'est pas très bien amené, en vrai, parce que même nous, lecteurs, il y a des moments, alors on sait très bien que Dio n'est plus là, mais comme, bon, c'est Dio et que on sait jamais, hein, avec lui, tout est possible, je sais pas, c'est pas bien fait, ça part un peu dans tous les sens, et c'est vrai que, je vais pas dire que c'était désagréable à lire, parce que ce serait exagéré, mais ce qui sauve en fait l'histoire, c'est le côté nostalgie. Réellement, c'est le côté, alors ça me fait rire de parler de nostalgie alors que j'ai lu l'arc d'avant il y a genre 3 semaines. C'est pas comme si ça faisait 10 ans que j'avais pas lu Jojo et que je me replongeais dedans. Mais ça va être de la nostalgie dans le sens où on va retrouver des personnages qui étaient dans l'arc de Stardust, que on va... Alors moi je l'ai pas lu dans le bon sens parce que je l'ai lu après avoir lu la partie 4, mais c'est toujours trop cool de voir Josuke. Et dans cette... Je trouve qu'en plus dans ce spin-off, il a sa personnalité un peu vénère qui est beaucoup plus accentuée que dans son propre arc. Donc là-dessus c'était chouette. Mais sinon malheureusement l'histoire elle m'a pas transportée. J'ai trouvé que le personnage de Ryoko, elle était franchement un peu fade, elle est toujours un peu révoltée, elle est un peu... t'as un peu l'impression qu'en gros la terre tourne autour d'elle, la preuve c'est qu'elle est persuadée que c'est de sa faute si Kakyoin s'est enrôlée dans l'armée de Dio, ici, etc. Donc quand on est habitué dans Jojo à avoir des persos féminins qui sont quand même assez badass, parce qu'on va pas se mentir, une Lisa ou même, j'ai oublié son nom, celle qui est amoureuse de Koichi, c'est des meufs quand même, tu vas pas trop les emmerder. En fait, vraiment, elles sont là, elles sont tout aussi puissantes que les mecs, si ce n'est plus, et tu les emmerdes pas, voilà, tout simplement. Et du coup, là, on se retrouve avec ce perso qui se veut un peu femme forte, etc., mais qui finalement est vachement derrière une carapace, et enfin voilà, tout ça mis bout à bout. À la fin, il y a quelques pages en mode pseudo-fanservice où elle est en sous-vêtement, mais je sais même pas pourquoi elle est en sous-vêtement, en fait, j'ai même pas compris à quel moment elle s'est retrouvée à poil, la meuf. Et voilà, ça c'est la partie que je trouve peut-être un petit peu dommage, et voilà, je dirais que c'est pas une lecture qui m'a marquée, c'est pas une lecture qui m'a transportée comme c'est le cas à chaque fois que je lis Jojo, et c'est en ça encore une fois que j'insiste sur le fait que Araki est vraiment très fort, mais voilà, c'était pas transcendant. Tout simplement. Donc voilà. Si vous avez envie de le tenter, allez-y. Parce que c'est quand même chouette, c'est quand même intéressant, je trouve, de voir une œuvre traitée par un auteur différent de l'auteur original. Ça, moi, j'aime toujours beaucoup ce concept de laisser un autre auteur se positionner sur un manga qu'on apprécie. C'est un peu le cas, par exemple, ne serait-ce que Boruto avec Ikimoto qui a repris après Masashi Kishimoto. Qui d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne le savent pas, sera présent en France le 24 24 et le 25 août, il y a eu une annonce de Cana. Et voilà, c'est cette partie-là que j'apprécie, d'avoir le regard d'un autre mangaka sur une œuvre, où ça c'est chouette. Mais sinon, en termes d'histoire, honnêtement, si vous le lisez pas, vous ratez pas grand-chose, très sincèrement. Donc voilà pour mon avis sur cette œuvre. Je vais m'arrêter là, puisque je pense que j'en ai suffisamment dit, et j'en ai dit même plus que ce que je pensais. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu quand même. Encore désolé pour celles et ceux qui n'en peuvent plus d'entendre parler de Jojo. J'espère que de votre côté, tout va bien pour vous. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour le prochain épisode et prenez bien soin de vous. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, tu connais bien évidemment la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce, un like, une étoile, un cœur, ce que tu veux, un commentaire, bref, un petit mot pour me dire que tu as apprécié cet épisode ou le podcast. Tu peux bien évidemment retrouver tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description de cet épisode. N'hésite pas également à venir me suivre sur Instagram où je suis particulièrement active ou sur Twitter sur lequel on peut débattre assez régulièrement. Encore merci pour ton écoute et pour ton soutien. Merci pour tes petits mots si tu m'en laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode.